Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Exode 17. Et je vous propose de nous arrêter sur les versets 8 à 16. Donc Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse dit, « Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. » Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, ou Jéhovah Nissi dans d'autres traductions. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. » De génération en génération. Voilà notre texte de ce matin. Mais pour bien comprendre cette bataille, donc ce texte qui nous parle de bataille, d'intersection et aussi de victoire. Mais pour bien comprendre cette bataille, il faut qu'on replace aussi un petit peu les choses dans leur contexte. Donc rappelez-vous, le peuple d'Israël venait tout juste de sortir d'Égypte, où Dieu les a délivrés de près de 400 ans d'esclavage. Dieu les a fait sortir par des puissants miracles. Ils ont été témoins des 10 plaies. Ils ont été témoins de la Pâque, de la traversée de la mer Rouge où Pharaon et son armée ont été engloutis, tandis que le peuple d'Israël était passé de pied sec. Et puis dans le désert, Dieu a fourni la manne du ciel pour les nourrir, et aussi de l'eau pour étancher leur soif. Et rappelez-vous juste le chapitre avant, mais aussi les quelques versets du chapitre 17, le peuple avait murmuré contre Dieu, à Massa et Meriba, doutant de sa présence parmi eux. Mais au moment où nous arrivons au chapitre 17, donc de l'Exode, Israël n'est pas encore entré dans la terre promise. Le peuple n'est plus en Égypte, il n'est pas encore non plus entré dans le pays promis par Dieu. On peut dire qu'il est entre les deux, il est dans le désert. Et c'est exactement là aussi que se trouve l'Église aujourd'hui. Nous sommes sauvés, Gilles l'a rappelé ce matin. Nous avons été rachetés, non pas par l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons été arrachés à la condamnation, nous appartenons désormais au Christ. Nous avons vu aussi la dernière fois avec André Schwab, nous changeons de maître. Le peuple d'Israël était sous Pharaon, maintenant ils sont libérés, ils suivent maintenant leur Seigneur, ils marchent avec Dieu. Mais donc nous appartenons désormais à Christ, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la gloire. Et comme Israël, nous sommes aussi donc entre les deux. Nous sommes encore ici-bas, dans ce qu'on peut aussi considérer comme notre désert. Mais ici-bas, nous sommes confrontés à des combats spirituels, à des doutes, des péchés tenaces sur lesquels on lutte chaque jour. Nous sommes confrontés à des ennemis invisibles qui nous découragent, qui nous freinent, qui nous empêchent d'entrer dans notre terre promise. Mais Dieu n'a pas sauvé Israël pour l'abandonner dans le désert. Et au même titre, nous aussi, Dieu ne va pas nous laisser livrer à nous-mêmes. Mais son plan depuis le début est de nous faire sortir de notre esclavage du péché pour que nous le servions, pour que nous le louions et pour que nous marchions avec lui, avec fidélité tous les jours. C'est donc dans ce contexte que je vous propose de regarder ensemble ce texte de Exode 17, versets 8 à 16. Parce que ce texte, ce n'est pas uniquement un récit ancien, lointain, dont on peut considérer que ça n'a rien à voir avec nous, mais ce que nous voyons ici est aussi une leçon pour notre vie chrétienne. Je vous propose du coup de voir ce texte en trois parties. La première partie, l'ennemi, Amalek. Nous voyons cela dans le verset 8 et 16. Et la deuxième partie, la bataille, versets 9 à 13. Et la dernière partie, le souvenir de la victoire. Avant d'aller plus loin, donc, il est important de comprendre qui sont ces Amalécites qui attaquent Israël. Il y en a quelques-uns ici, je sais, qui suivent un peu le foot, mais c'est comme l'équipe de France avant d'affronter un adversaire. Vous avez Didier Deschamps et tout le staff technique avec les joueurs qui font des analyses vidéo, qui regardent un petit peu quel est l'adversaire, quelle est son tactique, qui sont-ils, comment ils attaquent, comment ils défendent, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles. C'est aussi ce qu'on veut faire un petit peu dans cette première partie où nous allons voir cet ennemi, Amalek. Donc d'après Genèse 36 au verset 12, Amalek est un descendant d'Ésaü, le frère de Jacob. C'était une tribu pillarde installée dans le désert au sud de la Palestine. Et nous voyons dans Deutéronome 25, les versets 17 à 18, quelle est la méthode de cette tribu, la méthode justement qu'ils ont utilisée lors de cette attaque à Éphidim. Nous voyons que c'est une méthode cruelle et lâche. Voici ce qu'il dit dans ce passage, donc de Deutéronome 25, versets 17 à 18. « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de ta sortie d'Égypte. Comment il te rencontra sur ton chemin et tomba sur tes derrières, sur tes traînards qui se trouvaient derrière toi. Toi qui étais fatigué et las, et cela parce qu'il ne craignait pas Dieu. » Donc nous voyons aussi que Amalek ne combat pas de front. Il frappe par derrière. Il frappe les plus faibles, les fatigués, ceux qui sont les plus vulnérables. Donc voilà la marque de fabrique d'Amalek, lâcheté et cruauté. Amalek est la toute première nation à attaquer Israël après sa sortie d'Égypte. L'Égypte a représenté l'esclavage dont Dieu les a libérés. Mais Amalek représente quelque chose d'autre. Amalek représente l'hostilité, Gilles en a parlé ce matin. Amalek représente l'hostilité qui surgit justement après la délivrance. Amalek représente l'obstacle que nous pouvons rencontrer, non pas dans le pays de servitude, mais sur le chemin vers la promesse de Dieu. Et ça, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon parce que l'ennemi ne nous attaque pas seulement quand nous sommes encore dans le péché. Il nous attaque quand nous avons commencé à marcher avec Dieu. Israël n'est pas attaqué parce qu'il est encore sous Pharaon. Il est attaqué parce qu'il en est sorti, il en est délivré. Et comme je l'ai dit, Amalek est un descendant d'Ésaü. Celui qui a méprisé son droit d'aînesse, celui qui a vendu la promesse pour un plat de lentilles. On voit cette histoire dans Genèse 25, versets 29 à 34. Et aussi, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous le dit, Ésaü était un profane, c'est-à-dire qu'il a préféré satisfaire son besoin immédiat, il a préféré satisfaire le besoin de son ventre et mépriser l'alliance que Dieu avait avec son peuple. Donc Amalek hérite de cette hostilité envers l'alliance de Dieu. Et l'hostilité d'Amalek ne s'arrête pas à cette attaque à Réphidim. Elle se poursuit à travers toute l'histoire d'Israël. En Juges 3, verset 13, Juges 6, verset 3, Amalek s'allie contre d'autres nations pour attaquer Israël. Et en 1 Samuel 15, Samuel était chargé d'exterminer ce peuple d'Amalek, mais il va échouer à cause de sa désobéissance. Saül était chargé d'exterminer ce peuple, mais il va échouer à cause de sa désobéissance. Et la même haine, la même volonté d'extermination de génération en génération, voilà ce qui anime les pensées, voilà ce qui anime au plus profond de son être de ce peuple d'Amalek. Amalek devient ainsi le symbole d'hostilité perpétuelle entre le peuple de Dieu et son plan. Et je pense que c'est pour ça que Dieu déclare dans le verset 16 de notre passage, « Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Nous devons vraiment comprendre qui est Amalek, qui est cet adversaire qui ne veut pas nous laisser arriver dans notre terre promise. Aujourd'hui, cet adversaire prend toute autre forme. Cet adversaire prend aujourd'hui la forme de doute, de péché qui mord nos talons alors que nous voulons marcher dans la sainteté en réponse à la grâce qu'on a reçue. Et c'est pourquoi il est important pour nous de bien le connaître, non pas pour en avoir peur, mais justement pour savoir contre qui nous combattons. Maintenant qu'on a vu qui est cet adversaire, qui est Amalek, je vous propose de regarder du coup la deuxième partie de notre prédication, la bataille. Et dans cette bataille, nous allons voir deux réalités inséparables, représentées par ce que j'appelle deux groupes d'acteurs. Vous avez dans la vallée Josué et ses hommes, qui représentent le combat visible. Et le deuxième groupe d'acteurs que nous allons voir, c'est Moïse, Aaron et Hur, sur la colline, qui représente l'intercession. Donc le premier groupe d'acteurs, Josué et ses hommes. Au verset 9, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Donc ici, nous pouvons remarquer une grande différence avec la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge que nous pouvons lire, si quelqu'un veut lire dans Exode 14, versets 13 à 14. Est-ce que quelqu'un veut lire ce passage pour nous? Exode 14, et simplement les versets 13 à 14.
Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dans les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. »
Merci. Donc, dans ce que nous venons de lire, Moïse avait dit au peuple, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Là, Israël n'avait rien à faire. Il devait simplement contempler la délivrance que Dieu accorde à son peuple. Mais à Réphidim, c'est différent. Dans le chapitre 17 que nous avons lu, c'est différent. Moïse dit, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Donc cette fois, le peuple devait se lever, il devait combattre, il devait participer à sa propre défense. Et nous avons deux enseignements à tirer là-dessus. Pourquoi cette différence? Parce que Dieu veut enseigner à son peuple que s'il est sauvé uniquement par grâce, il est désormais appelé à marcher dans l'obéissance active. La deuxième chose, c'est que le salut est de Dieu seul. Sans intervention humaine, le salut est produit par Dieu seul, sans intervention humaine. Mais la vie du croyant n'est pas passive. Le chrétien n'est pas sauvé par ses œuvres. En revanche, il est sauvé pour les bonnes œuvres. Il est sauvé pour servir, pour marcher avec Dieu, pour combattre le bon combat de la foi. Le combat chrétien est une réalité. Nous avons vu ici avec Josué, qu'il devait choisir des hommes pour combattre. Il devait avoir le courage, de l'engagement, de la discipline, de la résolution, d'une stratégie de bataille. Et de même, dans la vie chrétienne, nous devons pas être négligents. Si nous voulons marcher fidèlement, il faut veiller, prier, résister au péché. user des moyens de grâce, nourrir notre âme par la parole de Dieu, rechercher la sainteté. Le combat que nous menons n'est pas charnel. Nous ne luttons pas contre des êtres humains, nous luttons contre des êtres spirituels. Mais ce combat est réel, ce combat est parfois très dur. Peut-être que certains d'entre vous le savent très bien ce matin. Il y a peut-être certains d'entre nous ce matin qui luttent avec un péché tenace contre la peur, contre l'angoisse, contre le doute, contre l'assurance du salut. Suis-je vraiment sauvé? Celui qu'on a déclaré mort, ressuscité ce matin, m'a-t-il vraiment pardonné? Peut-être que vous êtes frappé par ce doute, par la tristesse, par la lassitude spirituelle, par le découragement. J'aimerais nous encourager en disant ceci. Le combat n'est pas la preuve que vous êtes hors du chemin. Parfois, il est la preuve que vous êtes justement sur le bon chemin. Je vous propose de regarder maintenant le deuxième groupe d'acteurs, donc Moïse, Aaron et Hur, qui représentent l'intercession. Donc Josué descend dans la vallée pour combattre, mais Moïse avec Aaron et Hur monte sur la colline avec le bâton de Dieu dans la main. Et le verset 11 dit « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Donc on voit ici que Moïse n'intercédait pas les mains vides. Il intercédait avec le bâton de Dieu en main. C'est le même bâton de Dieu qui a frappé le Nil pour changer le Nil en sang. C'est le même bâton qui a ouvert la mer Rouge, comme nous avons lu tout à l'heure. C'est le même bâton qui a frappé le rocher sur lequel l'eau est sortie. Donc ici, on peut voir que Dieu veut attirer notre attention sur ce bâton, sur cet instrument. Ce bâton est le signe visible de la puissance de Dieu, de sa présence. En le tenant, levé, Moïse ne fait pas un geste magique. Il rappelle simplement à son peuple et à lui-même que la victoire vient de celui qui a déjà accompli tant de merveilles par cet instrument. Le bâton n'est pas une idole, mais un témoin. En le levant en haut, Moïse est en train de dire « Regardez ce bâton, c'est le même que Dieu a brisé, c'est avec le même que Dieu a brisé l'Égypte, que Dieu a ouvert la mer Rouge, que Dieu a donné de l'eau. Et le même Dieu combat pour vous maintenant. » Voilà le message que Moïse veut délivrer quand il lève ce bâton dans les mains. Et ce que nous voyons aussi pointe vers notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le bâton levé, Moïse est une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, nous avons encore lu ce matin, il a les bras étendus, non avec un bâton matériel, mais portant lui-même, sur lui-même, la victoire éternelle sur le péché et la mort. Le bâton de Moïse préfigure la croix qui est l'instrument visible de la délivrance. Jésus-Christ, notre grand maître, intercède sans faiblir. Il tient la victoire parfaite. Moïse avait besoin d'Aaron et Hur pour soutenir ses bras. Mais Christ, lui, intercède seul et éternellement. Et Christ ne se contente pas d'intercéder, il est ressuscité. C'est parce qu'il est vivant aujourd'hui que son intercession est efficace pour nous. Et rien que cela est un sujet de louange pour notre vie. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous voyons cela dans Hébreux 7, verset 25. Dans nos combats, donc, regardons vers celui qui a les bras étendus pour nous, vers la croix qui représente le bâton de Dieu pour nous. Le verset 13 dit « Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Josué combat. Mais la victoire vient de la colline, de l'intercession, de la main levée, du bâton de Dieu. Le combattant dans la vallée ne gagne que parce que l'intercesseur sous la colline ne faiblit pas. Voilà l'équilibre de la vie chrétienne. Nous combattons, Dieu nous appelle à combattre, mais la victoire n'est pas la nôtre. Nous luttons dans la dépendance de celui qui intercède pour nous. Nous n'avons pas à gagner la bataille, nous avons seulement à combattre, en sachant que la victoire est déjà acquise. La bataille se termine par une victoire, et Dieu veut qu'on se souvienne de cette victoire. Et c'est notre dernière partie, le souvenir de la victoire. Au verset 14, Dieu donne deux ordres à Moïse. Écrire comme souvenir et déclarer personnellement à Jésus. Donc pourquoi Dieu demande-t-il à Moïse d'écrire? Parce que le peuple oubliera. Parce que la génération suivante ne saura plus ce qui s'est passé à Réphidim si personne ne l'écrive, si personne ne le consigne quelque part. Parce que la foi se transmet par le témoignage, par le récit. Parmi d'entre nous ce matin, on a des enfants. Quand nous racontons à nos enfants ce que Dieu a accompli dans sa parole, nous sommes en train de transmettre tout ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu représente pour nous. Et donc le témoignage se transmet par le récit, par la parole écrite dans la Bible, mais aussi par d'autres ressources qui parlent de son amour. Combien de fois dans l'histoire d'Israël, le peuple n'a-t-il pas oublié les œuvres de Dieu ? Rappelez-vous le livre des juges. C'est un long cycle d'oubli et de retour. Le peuple oublie, il tombe dans l'idolâtrie, il est opprimé, il crie à Dieu, Dieu envoie un juge ou un libérateur. Le peuple se relève et oublie à nouveau. Et on voit que ça, principalement dans le livre des juges. L'oubli est un péché fondamental d'Israël. Mais pas que Israël. Chacun d'entre nous aussi, on est concerné par cela. C'est un oubli qui n'est pas passif, lié à la mémoire défaillante. Mais c'est un oubli actif de celui qui refuse de se souvenir. Parce que ce souvenir implique de reconnaître notre dépendance envers Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, écris, écris pour que la mémoire soit conservée, écris pour que les enfants sachent que les pères ont vécu, écris pour que la génération future ne soit pas privée du témoignage de la fidélité de Dieu. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous souvenir du salut en Jésus-Christ, de la croix, de la résurrection, des délivrances que nous avons déjà reçues, de la fidélité de Dieu et le culte public qu'on est en train de faire ce matin a précisément cette fonction. Chaque dimanche, nous nous réunissons pour louer notre Dieu, reconnaître qui il est, mais aussi nous rappeler des œuvres de ce qu'il a accompli pour nous. Nous nous réunissons pour entendre sa parole, pour confesser à nouveau que le salut vient de lui seul. Au verset 15, Moïse bâtit un autel et le nomme Éternel, ma bannière. Et ce mot en hébreu signifie à la fois bannière, étendard, mais aussi signe, signal ou point de ralliement. Jésus-Christ est notre bannière. La croix est notre point de ralliement. Quand le monde nous attaque, quand Amalek mord nos talons, nous ne regardons pas vers nos propres forces, mais nous levons les yeux vers l'étendard, vers Jésus-Christ, celui qui est crucifié, mort et ressuscité pour nous. À Réphidim, Israël a remporté une victoire temporaire. Mais à la croix, Et surtout au matin de Pâques, Christ a remporté une victoire définitive. La guerre de l'Éternel contre Amalek trouve son achèvement en Christ. L'ennemi est définitivement vaincu. Et c'est pourquoi nous aussi, approchons-nous de lui pour apporter notre reconnaissance, apporter notre adoration. Je vais terminer, conclure cette prédication par trois points, trois petits points, et qui sont très pratiques pour nous. D'abord, si vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus-Christ, sachez que ce texte vous interpelle aussi. Peut-être sentez-vous le poids du péché, l'angoisse, l'incertitude, la honte, comme Gilles l'a rappelé ce matin. Le vide d'une vie sans but. Je suis là, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui va devenir demain. Dieu vous appelle à la liberté. Dieu veut vous délivrer aussi au même titre qu'il a délivré son peuple de l'esclavage. Dieu veut aussi vous délivrer de votre esclavage. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour vous racheter de l'esclavage du péché. Tout comme Moïse a levé les mains en intercession pour le peuple, Jésus intercède aussi pour vous aujourd'hui. Il vous invite à venir à lui, à déposer vos fardeaux, et simplement recevoir le pardon et la vie éternelle. Ne restez pas dans la vallée de l'incertitude. Acceptez simplement la grâce que Dieu vous offre ce matin. Et ensuite, ici, je veux m'adresser à l'église de Sète. La scène que nous avons vue avec Moïse, soutenu par Aaron et Hur, est une image magnifique, glorieuse pour nous, pour l'église locale. Le christianisme solitaire est une illusion dangereuse. Nous sommes un corps et nous sommes appelés à combattre ensemble. Ce matin, regardez autour de vous. Et peut-être des frères et des sœurs dont les bras tombent, dont les bras fatiguent. Ils sont peut-être découragés par l'affliction, par la maladie, par la lutte contre le péché. Allez simplement, placez-vous à côté d'eux. Placez-vous à côté d'eux. Portez le rôle de Aaron et de Hur. Placez-vous à côté de vos frères et sœurs. Priez avec eux. Portez leurs fardeaux. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, nous dit Galates 6, au verset 2. Et enfin, partez d'ici avec certitude. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous lui appartenez. Amalek peut vous mordre les talons. Les épreuves peuvent vous faire pleurer. La vallée peut sembler sombre. Mais la fin de l'histoire est déjà écrite. Si Christ était resté dans la tombe, nos combats seraient vains. Mais il est ressuscité. Et parce qu'il vit, nous combattons avec une victoire déjà acquise. Jésus-Christ est notre étendard. Levons les yeux vers lui, combattons sous sa bannière et marchons vers la terre promise, sachant que celui qui a commencé en nous la bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que toute la gloire soit à Jésus, notre étendard. Amen.